Et nous entendons maintenant la lecture pour aujourd'hui tirée du livre des Actes, au chapitre 8, les versets 26 à 40.
L'ange du Seigneur dit à Philippe, « Va vers le sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza dans le désert. » Il se leva et partit. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine des Éthiopiens, et responsable de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer, et il s'en retournait assis sur son char, en lisant à haute voix le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme un mouton à l'abattoir, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, son droit a été enlevé, et sa génération, qui la racontera ? Car sa vie est enlevée de la terre. » L'eunuque demanda à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela ? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ? » Alors Philippe prit la parole et, commençant par cette écriture, il annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche de recevoir le baptême ?» Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. L'eunuque ne le vit plus. Il poursuivait son chemin tout joyeux. Quant à Philippe, il se retrouva à Azote, il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée.
En époustant les miettes de ce gâteau, je pense, avant d'entrer dans ce texte d'Acte 8, à ce biscuit croustillant que nous venons tous de manger. Je n'ai pas réfléchi à ça avant, mais finalement, tout ce qu'on mange et tout ce qu'on boit dans un lieu comme celui-ci a toujours une autre signification que simplement manger quelque chose. Et une église est bien un endroit où on apporte quelque chose, mais où on partage des choses, et quand on les mange et qu'on les boit, elles sont le signe simple de la communion que nous essayons de vivre entre nous. Ce qui fait qu'au plein milieu du baptême, la scène s'est invitée. C'était inattendu, mais ça a bien eu lieu. Pour revenir à ce curieux voyage du fonctionnaire éthiopien, qui dans les traductions les plus anciennes, moins euphémisantes, rendait bien le fait que c'est un eunuque. On a choisi fonctionnaire dans les traductions plus récentes, un choix de carrière, je ne sais pas. En tout cas, ce personnage vient de loin, et ce qu'il vit est comme ce que vit Aurore aujourd'hui, c'est singulier, ça n'arrivera plus jamais sous cette forme-là. Et puis c'est peut-être aussi un peu improbable en ce qui le concerne. Vous avez une rencontre entre un Philippe dont on ne sait pas d'où il vient, qui va disparaître d'ailleurs sans laisser de traces à la fin du récit, et puis ce haut dignitaire éthiopien, l'équivalent d'un ministre des Finances, donc ce n'est pas n'importe qui s'est déplacé sur ce char, on dirait en limousine ou en jet privé aujourd'hui, enfin... avec quelque chose qui montre son statut, mais qu'il conduit lui-même, qui ne fait pas conduire par quelqu'un d'autre. Et au lieu de regarder ce qui se passe à travers le pare-brise, en faisant attention là où il conduit, il est absorbé dans sa lecture, ce que personne ne ferait bien sûr, raisonnablement. Ce qui veut dire qu'il arrive dans ce voyage enveloppé totalement de la préoccupation de ses écritures, qu'il cherche à comprendre. Et il va justement tomber sur quelqu'un qui va les lui expliquer. Homme puissant, donc cultivé, respecté, il appartient à l'élite de son temps. Tout le monde n'est pas ministre des Finances, même si par moments ça peut être très éphémère. On peut l'être 20 minutes ou une journée et être déjà démissionnaire avant d'avoir pénétré dans son bureau. élite, reconnu, puissant, sans doute, et pourtant en recherche. Il a tout à disposition, cet homme-là, il a le nécessaire, il a certainement le superflu aussi, et il est pourtant en train de voyager loin de chez lui pour chercher un essentiel qui manque. Comme quoi, malgré sa position, quelque chose en lui demeure ouvert, curieux, insatisfait. Il se met en route, il parcourt des kilomètres pour comprendre et pour apprendre. Il aurait pu s'en dispenser, ou alors il aurait pu, avec sa puissance, claquer du doigt, demander à un de ses subalternes de se déplacer lui-même et lui dire « la semaine prochaine, va me chercher en Judée, là-bas, quelqu'un qui sait, qui peut m'expliquer ce que j'ai sous les yeux, moi j'ai autre chose à faire, et puis amène-le-moi ». C'est lui qui fait le déplacement, parce que c'est sa propre recherche. On ne peut pas tout faire par quelqu'un d'autre, et ces choses-là encore moins. Et puis c'est pas un simple voyageur, hein. Il ne va pas chercher une destination, un week-end pour oublier ses soucis. Il n'est pas touriste. Il cherche, c'est un chercheur de Dieu et il sait à peu près où aller le chercher, dans ses écritures qui ne sont pas celles de sa culture d'ailleurs. Il lit avec attention, il médite un texte qui n'est pas facile, dans une tradition religieuse qui n'est même pas la sienne, ce qui veut dire qu'il en a appris la langue, la culture, le contexte. Il a déjà beaucoup travaillé pour arriver à ce texte difficile. Mais il s'y engage avec sérieux, et à travers lui, nous nous reconnaissons aussi un peu, ou nous reconnaissons, nous identifions des exemples d'hommes et de femmes aujourd'hui, personnes instruites, sensibles, souvent éloignées d'ailleurs des institutions religieuses dans lesquelles ils ne mettent pas souvent les pieds, voire jamais, mais qui sont pourtant habitées par une quête spirituelle authentique et sincère. Cet Éthiopien représente cette partie de l'humanité en marche, qui cherche, qui ne se contente pas de ce qu'elle sait déjà, et il en sait certainement déjà beaucoup, mais qui avance à la recherche de quelque chose de plus ou de plus large. Le texte souligne qu'il lit à haute voix le passage du serviteur souffrant. C'est cette partie du prophète Ésaïe qu'il est en train de déchiffrer. C'est une page assez étrange, hein. Ce passage est assez difficile. Il est question de quelqu'un qui porte les souffrances du monde. Ça ne doit pas être une lecture extrêmement réjouissante. Mais c'est à ce moment-là où ce texte surgit et où il laisse beaucoup de questions à celui qui lit, que Philippe s'approche. Il apparaît à ce moment-là, on ne lui a rien demandé, on n'est pas allé le chercher du tout, mais il est pourtant là. Et qui lui demande « Est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» C'est naturel comme situation, hein, ça surgit comme ça, vous avez vu ça 50 fois dans votre vie, j'imagine. Transposez la scène dans le métro. Vous êtes assis côté vitre, donc vous êtes coincé. Hein, et vous avez votre livre comme ça avec vous, quelqu'un entre dans la rame et s'assied à côté de vous. Et vous sentez petit à petit le poids de son épaule sur la vôtre, qui se déporte comme ça. Et puis, il regarde sur votre bouquin, et au bout d'un moment, vous dit vous comprenez ce que vous lisez ? Vous le sentez monter, le « de quoi je me mêle », assez puissant. Je n'aimerais pas trop, hein, j'ai toujours un bouquin avec moi dans le métro, mais quelqu'un qui se met à m'écraser l'épaule comme ça, parce que c'est trop petit de loin, donc il s'approche comme ça... Est-ce que vous comprenez ce que vous lisez ? Et là, avec le tutoiement en plus, avec une proximité supplémentaire, comprends-tu ce que tu lis ? La question ne va pas de soi. On ne l'accueillerait sans doute pas de la même manière, tous, mais la réponse ne va pas de soi non plus. On s'attend. C'est une question un peu fermée. Tu comprends ou pas ? Oui, un peu, non. Bon. Une question fermée, hein, ça donne des réponses assez limitées. Lui répond autrement. Comment est-ce que je pourrais comprendre si personne ne m'accompagne pour m'aider à comprendre ? On ne serait pas allé chercher la question, on ne serait pas allé chercher la réponse non plus. Mais la question s'adresse à nous, évidemment. Et la réponse de l'Éthiopien aussi. Nous avons besoin les uns des autres pour interpréter ces textes dont nous ne voyons que quelques aspects. Ceux auxquels nous sommes habitués, ceux que nous avons compris, qui nous sont familiers, puis ceux dans lesquels on n'entre pas trop parce que bon, ça reste un peu... obscur, un peu mystérieux. C'est important, cette question de l'eunuque éthiopien, parce qu'il sait très bien, et il nous le retransmet sous forme de question, que ses écrits Ce texte d'Ésaïe et tous les autres ne sont pas des écrits fermés qui donneraient des recettes de vie ou un sens unique, mais quelque chose de vivant, ouvert au dialogue, qui a besoin d'être secoué, travaillé, mâché, médité, et qui, après tout ce travail, ouvre devant nous une pluralité de lectures et de sens possibles. Donc ce n'est pas une recette qu'on va chercher là-dedans. On arrive avec une question, on repart avec 10 ou 20. Mais cet homme qui vient de loin et qui est d'une autre culture et qui pourrait être un peu plus modeste dans son questionnement, il va franchement parce qu'il a déjà compris la liberté de ce qu'on appelle la foi. Si cette parole est vivante pour moi, et je crois qu'elle l'est, je ne peux pas l'enfermer une fois pour toutes dans ce que je pense d'elle, parce qu'il l'a certainement déjà lu 50 fois, ce passage, sans le comprendre. Et à la 51e, Philippe arrive. Je ne peux pas enfermer ce texte une fois pour toutes dans ce que je pense de lui, et ce que je ne vois pas dans ce texte, ce sont les yeux de quelqu'un d'autre qui le voit ou le verront un jour ou l'autre pour moi. Il a tout compris, cet homme-là. Ce n'est pas l'absence de sens qui trouble cet homme en recherche, c'est l'embarras du choix. La profusion d'interprétations possibles, comment s'y retrouver dans cette forêt? C'est peut-être aussi ce qui nous déroute encore aujourd'hui quand nous entrons dans ces écritures. Face à la multiplicité des discours que nous trouvons dans ces écrits, la multiplicité des commentaires qui les recouvrent encore un peu plus, les discours d'Église qui n'éclairent pas toujours le sens de ces choses, les obscurcissent parfois, comment se repérer, comment choisir? Philippe aurait pu se dire « Voilà un paumé, il a besoin d'une réponse claire, je vais lui en donner une, il fera avec, il rentrera déjà avec ça, je lui laisse mes coordonnées, s'il a besoin de plus, il saura où me trouver. » Être un petit peu directif. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Philippe ne lui apporte pas une vérité imposée. Il partage simplement son expérience à lui. « Je ne sais pas ce que tu vois, toi, dans ce texte, mais moi, voilà ce que j'y vois. » C'est par ça qu'il commence. Il lui raconte comment ce texte d'Ésaïe a pris pour lui sens, petit à petit peut-être, dans sa propre vie, à travers la vie et la mort de Jésus, celui qu'il appelle le Christ. Cet Éthiopien avait déjà bien défriché le texte et s'est retrouvé en face d'un taillis, d'un buisson, la piste s'arrêtait. Et quelqu'un vient avec une machette pour lui défricher 2 ou 3 mètres devant lui et lui dire « Tu vois, ça continue par là, le chemin. Tu n'avais pas vu, tu ne pouvais pas. Mais moi, j'ai déjà contourné ces choses-là et je sais que ça continue. » Et voilà à quoi ça aboutit. Il faut se rappeler aussi le contexte pour comprendre pourquoi Philippe arrive, déboule comme ça dans l'histoire de cet Éthiopien. Vous savez qu'au début du livre des Actes, c'est la communauté chrétienne qui est commençante, débutante, hésitante, apeurée, souvent refermée sur elle-même d'ailleurs, hein, encore fragile. Et c'est dans cette situation que survient justement la rencontre entre cet Éthiopien qui vient de loin et un homme du lieu qui, lui aussi, d'une certaine manière, est sorti de la crainte de ces petites communautés refermées sur elles-mêmes pour sortir dehors. C'est parce qu'ils se sont éloignés chacun de leur chez eux, l'un de très loin, l'autre un petit peu moins loin, qu'ils arrivent à se rencontrer. C'est là qu'a lieu la magie de ce texte. Un étranger venu d'ailleurs avec sa culture, sa langue, sa religion, ses interrogations, quelqu'un du lieu qui domine les choses, mais qui n'aurait pas pu rencontrer cet autre s'il n'avait pas eu un peu moins peur que les autres. En Philippe s'annonce une ouverture décisive. La foi chrétienne qui était née au cœur d'un petit groupe juif de Palestine va désormais à la rencontre d'autres mondes qui ont le bon goût de venir nous chercher chez nous, en plus. D'autres visages, d'autres traditions, d'autres manières de voir. Cette rencontre sur la route symbolise bien l'ouverture de cette petite communauté, pas très sûre d'elle, et d'une ouverture à l'universel, quelque chose de grand, peut-être trop, qui peut faire peur. C'est une petitesse qui se retrouve devant le vaste monde. C'est ça, Philippe, le représentant d'une église craintive qui a osé s'ouvrir un petit peu. Une petitesse devant quelque chose de grand. Y a-t-il de la peur à un quelconque moment dans ce texte? Relisez-le, vous verrez, à aucun moment. Et nous, aujourd'hui, nous avons une toute petite aurore, au tout début de son voyage, elle aussi devant le vaste monde et tout ce qui l'attend. A-t-elle eu peur? J'ai pas l'impression. Avons-nous peur pour elle? Saurons-nous répondre? À aucun moment. Tout est à faire. Philippe n'est pas un apôtre du premier cercle, c'était plutôt un subalterne, un serviteur. Sa mission n'était pas de prendre des décisions, de gouverner et de demander à des exécutants d'un claquement de doigts « faites donc ceci », etc. Ce n'était pas son rôle, Philippe. Il était plutôt en dessous, d'ailleurs. C'était plutôt un subalterne. Et c'est lui qui devient le témoin de cette ouverture au monde. Ça passe par quelqu'un qu'on ne serait pas allé chercher si on avait épluché 50 CV. Il n'interroge pas l'Éthiopien sur sa religion. Pas de question là-dessus. Ni sur sa moralité. Il ne cherche pas à savoir s'il a affaire à quelqu'un de bien. Il ne cherche pas à l'intégrer dans un groupe. Il ne cherche rien de tout cela. Ça paraît fou d'ailleurs en le disant, mais il n'essaie même pas de l'inscrire sur la liste électorale avant le 31 décembre. Où va-t-on? Il écoute et il accompagne, et il se contente de ça. Il répond à une demande qui lui est faite, n'impose pas, il propose. Il ne convertit pas, il éclaire. Si je me laissais aller, je pourrais presque faire de Philippe un modèle d'église qui fiche la paix aux gens. Oh, allons-y. Philippe illustre ce que pourrait être l'attitude d'une église. Pas une institution qui détient la vérité et qui la distribue, ce qui la transforme en distributeur, avec comme public qui se retrouve devant elle, ceux qu'on retrouve devant un distributeur. Mais une communauté qui chemine et qui accueille, qui partage la parole dans la liberté, qui partage ce qu'elle a, comme des biscuits par exemple. La rencontre de Philippe et de l'Éthiopien est exemplaire parce qu'elle repose sur la réciprocité. J'attends quelque chose de toi, mais moi aussi je pourrais avoir quelque chose à te donner. L'un offre son savoir, l'autre vient avec sa question. L'un transmet une expérience, l'autre la reçoit et la fait sienne, et ça lui suffit, et il retourne chez lui. L'Éthiopien avait besoin de Philippe, et Philippe avait besoin de l'Éthiopien. C'est précisément parce que Philippe ne force rien que l'Éthiopien peut poser de lui-même cette question inattendue. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Bon, ça vient un petit peu après, hein. Rien, évidemment. Ça tombe bien, il y a un plan d'eau. Il y a toujours de l'eau à disposition. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Rien, puisque dans ce récit, ce n'est pas la récompense d'une foi parfaite qui serait parvenue, arrivée au bout. C'est pas le cas. Ni l'entrée dans une institution, personne ne l'enferme dans quoi que ce soit, on ne lui fait rien signer. Le baptême est le signe d'un passage, d'un départ et d'une liberté nouvelle, celle qu'on souhaite à d'autres et qu'on aime entourer dans un jour comme celui-ci. C'est le geste de celui qui, ayant trouvé un sens possible, veut vivre désormais autrement. C'est ça qui fait qu'on entre dans l'eau, qu'on est couché dans cette eau, dans la position d'un sommeil ou d'une mort provisoire. On se relève, qu'on sort de l'eau et qu'on n'est plus tout à fait le même ou la même. Philippe baptise donc cet homme. Le baptême n'est pas très détaillé d'ailleurs, on n'a pas de détails sur la quantité d'eau, immersion totale, triple aspersion, enfin on n'en sait rien, ça n'a pas d'importance. Le baptême a lieu et ce qui suit est important, beaucoup plus important que la manière de faire. Il lui laisse poursuivre sa route parce qu'il est tout joyeux. Il continue son chemin tout joyeux. Ce n'est pas la possession d'une vérité qui le rend joyeux. C'est la découverte d'une liberté intérieure nouvelle. L'Éthiopien n'a pas changé de pays, ni de fonction, ni de culture. Il va retourner dans son ministère des Finances avec ses tableaux, ses chiffres. Il n'a pas changé de langue, ni de culture. Il a fait un voyage au cours duquel il a rencontré quelqu'un qui a contribué à ce qu'il soit mis ou remis debout. Peut-être qu'il ne l'aurait pas trouvé chez lui. Les appartenances religieuses aujourd'hui, vous le savez bien, ne sont pas données d'avance. Elles sont même plutôt friables, éclatées, problématiques. elles sont l'effet d'une recherche personnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les églises, on rencontre peut-être beaucoup plus de gens qui ressemblent à cet Éthiopien, venu d'assez loin, finalement, chercher quelque chose qui les relève. Et qui le trouve ? Faut pas désespérer. Beaucoup se reconnaissent dans cette attitude de l'Éthiopien. Nous aussi, souvent, nous lisons, nous cherchons, nous interrogeons, nous restons avec nos questions un peu en plan, comme ça. Notre quête est parfois solitaire, parfois confuse, toujours sincère. Et puis un jour, on tombe sur quelqu'un qui avait la réponse ou une réponse possible à notre question et qui nous en adresse d'autres. Le rôle d'une église est peut-être d'être comme Philippe, des compagnons de route, non pas ceux qui détiennent la réponse, mais ceux qui acceptent d'écouter, de dialoguer et de témoigner. La foi dans la liberté, c'est ça précisément. Faire confiance à la liberté de celui qui pose la question comme de celui qui essaie d'y répondre modestement, sans forcer. Ne pas imposer un cadre fermé, mais accompagner dans la recherche. La vérité dans ce texte ne s'enferme pas apparemment dans une formule. Elle se découvre peu à peu à travers la vie, la rencontre, le dialogue et la lecture patiente des Écritures en parallèle avec une relecture de sa propre vie. On sait que l'Éthiopien part tout joyeux, c'est bien. Il aurait pu repartir dans un autre état. Il repart tout joyeux. On ne nous dit pas ce qu'il devient après ou ce qu'il fait de cette joie et du fait d'avoir été remis debout. Je suis sûr, moi, qu'il en a fait quelque chose. Peut-être même qu'il a expliqué à sa manière, le peu qu'il a compris, à quelqu'un d'autre, à qui cette question inattendue a suscité aussi l'envie de se relever. Dans toute cette perspective, ce que nous faisons aujourd'hui, ce baptême, prend son sens. Ce n'est pas l'entrée dans un système de pensée ou une manière de faire, mais c'est l'ouverture d'un cheminement personnel. Alors quand on le fait à l'âge d'Aurore, on n'est pas en retard, voilà. Il y a encore du temps pour expliquer beaucoup de choses. C'est évidemment d'abord et avant tout un signe d'accueil sans condition. Ça dit notre confiance, ça dit la vôtre aussi aujourd'hui. Mais ça dit aussi celle de Dieu envers l'être humain et celle de l'être humain envers sa propre vie. Ce sont toutes ces choses qu'il faut saisir à travers ces quelques gouttes d'eau versées sur une tête. En célébrant le baptême d'Aurore aujourd'hui, nous retrouvons un peu cette dynamique. Comme l'Éthiopien sur la route, Aurore commence un voyage. Elle n'a pas encore les mots ni les réponses, loin de là, mais elle a déjà reçu la promesse d'un avenir ouvert. On le sentait dans ce récit, on le sentait dans vos engagements de parents et de parrain-marraine aussi, tout à l'heure. Ce baptême est pour elle une porte qui ne fixe rien, mais qui ouvre tout. Notre rôle à nous, parents, parrains, marraines, communauté, puisque nous avons tous un rôle, des devoirs, c'est d'accompagner cette croissance, ce cheminement, non pas en transmettant des certitudes toutes faites, qui ne satisfont jamais, ou jamais très longtemps, mais en partageant une foi vivante, capable de parler, de dialoguer, ouverte à la diversité des convictions. Nous pourrons dire à Aurore ce que les Écritures signifient pour nous. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire. Mais toujours dans le respect de la liberté qu'elle aura un jour, nous l'espérons, d'en faire sa propre lecture. Être une Église vivante, c'est ça. Rester ouverte à ceux qui cherchent, accueillir leurs questions sans peur, même si nous n'attendons pas les questions. Philippe ne s'attendait pas à ce qu'on lui pose cette question-là. Entendre les doutes comme les appels à penser plus profondément. Il faudra savoir accueillir toutes ces choses. Dans le récit d'Acte 8, Philippe disparaît. On pourrait se dire, c'est normal, c'est un sous-fifre, un subalterne. Il a fait ce qu'il avait à faire, on n'est pas très loin du serviteur inutile d'il y a quelques jours. Donc finalement, c'est bien qu'il disparaisse, c'est normal. Mais c'est important de disparaître, comme il le fait. Il n'est pas monté sur le char pour aller monter une église en Éthiopie, que je sache. Il ne cherche pas à contrôler la suite. Il n'a pas cherché à retenir ou à enfermer celui avec qui il parlait, mais il n'a pas cherché à l'enfermer dans un lieu non plus. Il ne cherche rien de tout ça. L'homme qui l'a accompagné poursuit sa route, libre, joyeux en plus, libre et joyeux, c'est pas mal, transformé, habité par la joie et avec un avenir qu'il ne voit plus de la même manière. Peut-être que c'est l'image la plus juste de la mission des églises, accompagner, témoigner, puis s'effacer pour que quelqu'un d'autre puisse avancer et continuer sa route libre et joyeux. À travers ce texte ancien, nous est rappelée finalement une vérité assez simple. La foi n'est pas, ou pas seulement, pas d'abord, un héritage à protéger, à mettre dans un coffre, mais plutôt un mouvement à vivre. Elle n'enferme pas, elle libère. Elle ne fixe pas un modèle, elle ouvre un horizon. Et c'est sur cette route, la route de l'écoute, du dialogue, du partage, que se joue encore aujourd'hui la rencontre entre Dieu et les humains. Comme Philippe, nous devons être de ceux qui marchent aux côtés des chercheurs de sens, qui partagent la parole sans la posséder, qui témoignent d'une présence qui ne s'impose pas, mais se propose. Alors peut-être, sûrement même, d'autres voyageurs vont se lever, de plus loin, d'un peu moins loin, reprendre leur route tout joyeux après nous avoir parlé, et nous n'y serons peut-être pour pas grand-chose d'ailleurs. Ce qui importe là-dedans, c'est que la parole dont nous sommes porteurs continuera sûrement son chemin, toujours neuve, toujours vivante. Amen.